Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand en partenariat avec le réseau de librairies indépendantes Initial. Vous êtes bien sur BAC FM. Eh bien aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, cette émission ne comportera pas de chronique coup de cœur, mais j'en profite pour dire tout le bien que je pense d'un texte extraordinaire intitulé « Autobiographie d'un poulpe » par Vinciane Després, paru aux éditions Actes Sud. Alors c'est un texte tout à fait original qui mêle recherche, la recherche scientifique et invention, fiction, voire hyper-fiction, puisque nous partons en compagnie de terro-linguistes. Ne cherchez pas dans le dictionnaire, c'est une invention de l'écrivaine Ursula Le Guin. Avec ces terro-linguistes, nous étudions des romans rédigés par les vibrations d'étoiles d'araignées et les écrits laissés par des poulpes sur des tessons de poterie au fond de la mer. Oui, oui, je vous assure, c'est vrai. Un olni, donc objet littéraire non identifié, qui mêle réalisme, poésie, animalisme aussi, bien sûr, et imaginaire, sous la forme de nouvelles assez étranges. Et je voudrais aussi mentionner l'excellent roman, totalement différent de celui dont je viens de parler, qui s'intitule « Le poids de la neige », à lire en été quand on a envie d'un peu de fraîcheur, de Christian Gay-Poliquin, publié aux excellentes éditions La Peuplade. Alors c'est une narration très poétique qui raconte la rencontre contrainte entre deux hommes que rien ne relie dans une maison du Grand Nord canadien en plein milieu de l'hiver, alors que l'électricité est coupée partout et que la civilisation elle-même semble avoir disparu. Oui, un huis clos froid, très étrange et passionnant. Encore un roman atypique. Pourquoi est-ce que je vous parle de roman atypique aujourd'hui ? Parce que c'est le jour de l'Olni. Notre invité n'est en effet autre que Romain Ternaux, auteur de Underdog Samurai, qui lui aussi est un roman qui rassemble deux univers improbables qu'il réussit à marier avantageusement. Un roman publié aux éditions des Forges de Vulcain, une maison qui regorge de pépites.
Bonjour Romain.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous recevoir. Romain Ternaux, vous êtes l'auteur de 5 romans, dont l'étonnante histoire du loser qui devint gourou. Et vous avez publié le 6e roman aux éditions des Forges de Vulcain, Underdog Samurai, un roman appartenant à un genre que je ne connaissais pas, la bizarro fiction en anglais, un petit peu mélange de burlesque, de surréalisme et d'absurde. Alors je n'ai pas trouvé de traduction d'ailleurs à cette expression bizarro fiction. J'ai donc voulu savoir de quoi il retournait, et pour le savoir j'ai lu votre roman. Et j'ai pas été déçue. Il raconte l'histoire d'un jeune homme brutal, insupportable, plutôt odieux, très désagréable, qui commande un katana authentique et reçoit une sur le darknet et reçoit une copie qui se brise à la première utilisation contre un meuble Ikea. Oui, en plus. Frustré donc, votre héros décide de se rendre au Japon pour obtenir réparation d'une manière assez virulente. Et il découvre, entre autres, qu'il est peut-être l'élu. Alors je n'en dis pas plus, je crois que c'est suffisant pour donner aux auditeurs une idée de ce que peut signifier le mélange surréalisme, burlesque et absurde. Alors c'est un vrai parti pris qui associe violence, sécrétion de toutes sortes, une rage dans l'excès et la surenchère, le tout assaisonné d'une forte dose de pop culture, principalement nippone. Donc la première question qui vient à l'esprit quand on lit votre roman, quand on en sort, c'est on a l'impression de revenir dans une autre réalité, c'est comment vous est venue l'envie de raconter cette histoire où tout est excessif, les comportements, les choix, les gestes, les mots. D'où sort cette idée ?
L'idée, au départ, elle est venue de deux personnes. La première personne, c'est Thomas Pock, qui est un autre auteur des éditions Forges de Vulcain et qui a suggéré qu'un roman d'arts martiaux correspondrait bien à mon style. Et du coup, j'y ai réfléchi. Et un autre ami m'a expliqué qu'on n'avait pas le droit, que le Japon n'avait pas le droit d'exporter ses sabres féodaux authentiques. Et du coup, ça m'a donné l'idée de quelqu'un qui voudrait quand même en commander un et qui se ferait arnaquer et qui aurait envie de se venger. Voilà, c'est de là qu'est partie l'idée en réalité.
Donc quand vos amis vous font des suggestions, vous les suivez, vous vous dites « tiens, c'est une piste intéressante à suivre », surtout quand elles sont un petit peu inattendues. Plus c'est inattendu, plus ça suscite votre imagination, la graine a vite germé, si je comprends bien. Parce qu'en fait, là, ce qu'on vient de dire de votre roman, c'est juste, je dirais, la partie émergée de l'iceberg. Il est d'une... d'une densité. Il se passe toujours quelque chose. C'est complètement délirant, avec des personnages très alcoolisés qui font des choses qui n'ont pas l'air réelles, tout en ayant l'air réel. C'est quand même assez étonnant. Votre héros, lui, n'a rien d'attachant. Il est plutôt désolant, de vide, de brutalité, donc clairement un anti-héros. Mais aussi un personnage qui n'évolue pas malgré tout ce qu'il traverse, qui n'apprend pas grand-chose. Alors c'est assez rare de ne pas tomber dans la figure du méchant qui est en fait un gentil ou qu'il devient. Et on pense en particulier à l'un de vos précédents romans, donc Histoire du loser devenu gourou. Vous semblez affectionner ce type de personnage. Pourquoi avoir choisi ce héros ?
Parce que je trouve ça plus intéressant. En réalité, oui, quand on me suggère des idées, je les réalise si elles correspondent à mon style. Et en réalité, mon style, il est un peu le même depuis mon premier roman. Et ce sont souvent des anti-héros. Et mes romans sont un peu des, on pourrait dire, des romans anti-initiatiques. Parce que comme vous dites, le narrateur, en général, c'est pas qu'il progresse pas, mais on va dire qu'il avance pas vers la vertu, on va dire. Parce que je trouve ça pas tellement intéressant, en réalité, de représenter le bien. Je préfère montrer un personnage qui n'a aucune censure et qui est un peu en autarcie, on va dire, mentalement, et le représenter. C'est pour ça que j'écris aussi à la première personne et que tout est en direct, on pourrait dire. J'écris au présent, tout va extrêmement vite et il se passe beaucoup de choses. Et c'est ma manière d'écrire. C'est comme ça que je vois la littérature d'aujourd'hui. On pourrait dire, je pense qu'il faut vraiment être attractif. Et du coup, j'essaie que ce soit le plus mouvementé possible.
Pour vous, pour rendre le texte attractif, le mouvement est quelque chose d'essentiel.
Bah oui, c'est très visuel de toute façon. Quand j'écris, oui, je fais en sorte que ce soit très visuel. Et même, c'est pas hyper descriptif parce que j'aime aussi que le lecteur ait la liberté d'imaginer ce qu'il veut derrière ce que moi je suggère. Donc l'action a une importance fondamentale. Peut-être plus que le reste, l'action, les dialogues et surtout le flux de narration. On va dire qu'on est tout le temps dans la tête du narrateur et on lit ce qu'il pense en direct, en permanence. Et voilà, et on découvre en même temps que lui ce qui se passe.
Avec son prisme, c'est-à-dire aussi voilà, avec sa subjectivité qui est assez parfois...
Voilà, c'est le flux de conscience un petit peu, on pourrait dire, à la James Joyce. Mais bon, j'ai pas la prétention de faire du James Joyce. On va dire que c'est un petit peu plus burlesque. Voilà, c'est un peu plus léger surtout.
James Joyce en burlesque, déjà c'est tout un programme. Donc votre héros voyage, puisqu'il se rend au Japon. Mais finalement, comme vous venez de le souligner, peu importe où il se trouve, hein, il est toujours dans cette bulle qui est cette bulle un petit peu autarcique, comme vous le disiez tout à l'heure. Une ambiance très dynamique, hein, qui ne respire jamais. Une ambiance parfois glauque, trash, remplie de jeux de mots très décalés, qui plonge aussi dans la satire. Parfois, on est entre la série Z et le gore scriptural, si tant est que ça existe. Comment est-ce que vous avez construit ces atmosphères, ce Japon, ces espaces? Parce qu'on a les odeurs aussi. Hein. Quel a été votre fil rouge dans la construction de ces atmosphères ?
Je me suis beaucoup documenté. Je ne suis pas allé directement au Japon, mais j'ai beaucoup lu, de documentation autour du Japon, y compris des journaux de sumo. C'est pour ça que c'est toute une partie qui se passe avec des sumo. Sur Tokyo, les samouraïs. Enfin, je me suis énormément documenté et puis ça nourrit mon imagination. Et après, une fois que j'ai été nourri de tout ça, je me suis un peu lâché comme d'habitude. Et c'est ça qui donne le ton très décalé, mais cohérent, je pense. J'essaye d'être crédible malgré tout.
Est-ce que dans votre documentation, vous avez trouvé des idées qui ont un peu modifié ce que vous aviez initialement prévu lors de l'écriture de ce roman ?
Pas vraiment, parce que je me suis vraiment mis à écrire une fois que les idées étaient en place dans ma tête. Après, il y a beaucoup d'improvisation forcément quand on écrit, parce que même si on a un point de départ, en général, moi j'ai les grandes lignes du roman, je sais où je vais, mais le détail il vient au fur et à mesure, parce que au moment où on écrit, il y a plein d'idées qui viennent et elles se rajoutent à ce qu'on avait prévu au départ. Et donc voilà, plus on a écrit, plus on a d'idées et plus on prend des chemins de traverse. Et donc, ça s'est fait comme ça, quoi.
Ça s'est fait comme ça. Donc, vous avez une trame relativement lâche, si je comprends bien, et vous avez plaisir à broder dessus en surtout ne vous interdisant rien.
Oui, voilà, c'est ça. J'essaie de ne jamais me censurer. Enfin, après, il faut que ce soit bon, quoi. Si je relis et que je trouve ça nul, j'ai autre chose. Mais dans un premier temps, oui, c'est ça, je me lâche complètement. Disons que même les idées les plus tordues qui me passent par la tête, je les mets quand même sur le papier, enfin sur l'ordinateur en l'occurrence, et je trouve ça plus intéressant d'ailleurs. Plus ça va être bizarre, et plus, je sais pas, j'ai l'impression de sonder un peu mon inconscient, même si des fois j'en rajoute, et je trouve ça plus intéressant pour tout le monde, plutôt que de tout calculer à l'avance, et quelque chose de très pointilleux. Je pense que voilà, il y a une forme de sincérité, en fait, je pense, qui est importante et qui se ressent. Et il faut que moi-même, je m'amuse, parce que si je trouve ça rébarbatif ou si je m'ennuie à faire quelque chose de trop carré, eh ben, je pense que ça va se ressentir au moment où le lecteur va le lire, quoi.
Oui, donc l'improvisation fait partie intégrante de votre processus créatif.
Ben oui, complètement. Même si, voilà, comme je disais, J'ai la trame principale, j'ai les grandes lignes, j'ai une forme de squelette du roman en tête, mais pour mettre la chair sur le squelette, et bien là il n'y a pas trop de limites, et puis je me lâche à fond et plein d'idées viennent par l'improvisation.
Alors je vous propose, en attendant la suite de vos explications sur ce roman tout à fait étonnant, je vous propose de faire à présent une deuxième pause musicale en écoutant The Rich Kids, Japan, My Friends. Donc on écoute. Bien sûr, Bac FM, nous sommes en compagnie de Romain Ternaud, écrivain, auteur de Underdog Samurai, publié aux éditions Les Forges de Vulcain, et nous venons d'écouter The Rich Kids, Japan, My Friend. C'était donc la bonus track. Alors, Romain, vous appréciez l'écriture de Céline et de Bukowski, vous avez parlé de Joyce aussi tout à l'heure. Votre écriture emporte la trace par l'excès, aussi l'absurde qu'elle transmet. Qu'est-ce que, justement, la littérature et l'excès dans la littérature apportent plus qu'une écriture plus balancée, plus classique, ce qu'elle ne trouve pas ? Qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans ce type d'écriture que vous ne trouveriez pas dans une autre écriture plus habituelle, on va dire.
Ben, je ne sais pas si je saurais le formuler. Moi, plus que Bukowski, c'est John Fante qui m'a vraiment donné envie d'écrire. Quand j'ai lu La route de Los Angeles, qui est son premier roman, j'ai beaucoup ri. J'ai vraiment réagi en même temps que le roman et je me disais que si j'écrivais un jour, bah, faudrait que je fasse ressentir au lecteur la même chose que moi j'ai ressenti en lisant La route de Los Angeles. Et ce genre de sensation, parce que là c'est vraiment des sensations, quoi, c'est plutôt rare et je l'ai plutôt lu chez les Américains et dans ces styles-là qu'en lisant Proust, même si j'adorais, ou en lisant Céline, j'ai un petit peu ressenti ça. On va dire que il faut que le style soit direct, selon moi, pour que ça me touche. Il faut qu'il y ait le moins de distance entre le lecteur et ce qu'il lit. Et plus ça va être dynamique, et plus ça va être en mouvement, et plus ça va me parler, quoi. C'est comme ça que je vois les choses.
Oui, c'est une langue, la langue que vous utilisez dans votre roman est une langue, effectivement, entre l'oral et l'écrit, avec beaucoup de mots qui relèvent davantage, oui, de l'expression courante, parfois de l'expression grossière, plus que de Proust, en effet, c'est sûr. Pour vous, quelles sont les sensations que vous avez éprouvées précisément en lisant John Fante, que vous voulez retransmettre à votre lecteur?
En l'occurrence, pour John Fante, c'était plutôt des crises de fou rire. Vraiment, parce que justement, il y avait un excès. Dans La route de Los Angeles, le narrateur, c'est un jeune homme qui veut devenir écrivain. Et il y a ce décalage, c'est-à-dire qu'il est très imbu de lui-même et c'est un loser total. Et du coup, le décalage l'amène à mépriser tout le monde et à lui-même toujours faire aller de gaffe en gaffe. Et enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire.
Ce grand écart entre la prétention du personnage et la réalité qui vous intéresse. C'est ce moment où, en fait, il n'y a pas vraiment de confrontation avec le réel, finalement.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est ça qui permet, justement, à ce qu'il se prenne la réalité en pleine face et qu'il se passe plein de choses au final.
Une réinvention.
Alors que s'il était très rationnel, ça ne pourrait pas arriver.
Ce serait moins drôle,
c'est sûr. C'est ça.
Mais je pense que s'il était rationnel, votre personnage n'aurait pas commandé un katana sur le Darknet. Il se serait peut-être renseigné avant et il n'y aurait pas eu d'histoire. Heureusement, il a eu la mauvaise idée de le faire. Alors, vous avez choisi ces deux morceaux musicaux que nous venons d'entendre. Pourquoi avoir choisi ce dernier morceau, par exemple? Et est-ce que la musique joue un rôle dans votre inspiration ou dans votre écriture? Est-ce que vous écrivez en musique? Est-ce que ces morceaux-là vous ont aidé à écrire?
Oui, en général, j'écris en musique. Dès mon premier roman, j'ai pris cette habitude parce que, je sais pas, j'aimais bien combler un petit peu l'espace sonore. Ça ne me distrait pas dans ce que j'écris. Donc voilà, c'est autant mettre de la musique, je trouve ça plus sympa.
Oui.
Quand le dernier morceau qu'on a écouté, c'était The Rich Kids. Là, en l'occurrence, c'est un groupe qui n'existe même plus, mais que j'avais vu en concert il y a un certain temps et que j'avais beaucoup aimé. Et puis là, il parle du Japon, je me suis dit, c'est l'occasion de les ressortir, quoi.
C'était l'occasion, en effet. Est-ce que écouter de la musique rythme votre écriture elle-même? Je veux dire que quand on lit votre roman, il n'y a pas de temps mort. Il se passe toujours quelque chose et on ne sait pas, je dirais, à la phrase suivante, ce qui va tomber sur le coin de la figure du personnage. Est-ce que écouter ces musiques a une influence sur le rythme de vos phrases?
Je n'en suis pas persuadé. Peut-être que ça m'aide. C'est peut-être inconscient. En plus, moi, j'écoute des trucs bizarres. Il y a un chanteur que j'ai beaucoup écouté. Voilà, qui s'appelle Jean-Louis Costa. Et Jean-Louis Costa, il fait des musiques très déconstruites avec un rythme, on va dire, plutôt saccadé. Donc je pense pas que c'est ça qui aide à avoir un bon rythme d'écriture. Je pense pas que le rythme se marie forcément à ce qu'on écoute au moment d'écrire. Je crois que c'est indépendant. C'est deux choses différentes, mais vu que je sais où je vais quand j'écris, on va dire que ça ne perturbe pas. Je pense pas que ça m'aide spécialement, mais voilà, ça ne me perturbe pas non plus.
Et ça n'influence pas le rythme de vos phrases. Pour vous, c'est complètement différent.
Ben ouais, je pense que c'est indépendant. Après, peut-être qu'inconsciemment, ça joue. C'est pas impossible du tout, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'identifie spécialement, quoi.
Parce que certains écrivains aiment se mettre dans un certain état d'esprit pour écrire et donc utilisent la musique. Mais ça n'est pas votre cas du tout.
Non.
Donc c'est un comme vous disiez tout à l'heure, c'est pour combler l'espace sonore que vous écoutez de la musique en écrivant. Alors Underdog Samurai est votre sixième roman, mais certainement pas le dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos projets d'écriture ?
Oui, j'ai commencé un livre de fantasy. c'est une première pour moi, mais voilà, de dark fantasy pour être plus précis.
Sur les suggestions d'un ami ?
Non, c'est juste que quand j'ai découvert Berserk quand son dessinateur est mort, Kentaro Miura, donc qui est un manga de fantasy très sombre, très violent, et très culte à travers le monde, et quand Kentaro Miura est mort, c'est un gros événement, et du coup à cette occasion j'ai découvert son univers et ça m'a donné envie d'écrire un roman de fantasy dans mon style à moi, voilà, parce que j'étais amené du coup à découvrir plein d'autres artistes et ça m'a donné envie de mettre ma propre patte.
Eh bien, on a hâte de lire cette dark fantasy en bizarro fiction. Rien que l'idée du mélange est stimulante intellectuellement. On se demande ce que ça va donner. Eh bien, ce sera sur cette perspective alléchante que nous arrêterons, car l'émission touche déjà à sa fin. Mais j'invite tous les auditeurs à se rendre en librairie pour y découvrir Underdog Samurai, publié, je le rappelle, par les éditions Les Forges de Vulcain. Un roman qui ne laissera personne indifférent. Merci beaucoup, Romain, d'avoir passé un moment avec nous sur les ondes de Bac FM.
Merci à vous.
Alors, avant de nous quitter, je ne résiste pas au plaisir de vous annoncer les dates du festival aux quatre coins du mot qui aura lieu cette année encore à la Charité-sur-Loire. C'est un festival consacré cette année au Gai Savoir, oui, rien que ça. Retenez bien ces dates du 25 au 29 mai. Venez écouter des artistes et des auteurs présents, une soixantaine, pendant de nombreuses rencontres. Il y aura des spectacles, des animations, ce sera au prieuré, sur les remparts, dans le jardin des Bénédictins. Il sera question de filiation, de mémoire, de traduction, de jeux de mots, de tradition orale, avec François Morel, Fabrice Caro. On aura même droit à une joute de traduction à l'épée, pas au katana, mais à l'épée, c'est déjà ça. Des capuchniks, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien venez, vous verrez, ça ne se raconte pas. Voilà, et pour en savoir plus sur le programme, je vous invite à le consulter sur le site citedumot.com. Mais en attendant, je remercie notre partenaire, le réseau de librairies indépendantes Initiales. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission à l'adresse claire@memorialiste.fr. Cette émission était réalisée et montée par Théo et proposée par Claire Garand. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les voies du livre.